Bonjour, l'objectif de cette vidéo est d'approfondir ce qu'on a vu précédemment sur la programmation web et d'une certaine manière de zoomer sur le dernier transparent de la vidéo précédente qui portait sur les notions de web classique et moderne. Donc je repartirai de ces éléments, je les détaillerai. Je montrerai ce qui correspond à l'état de l'art du développement web à travers des API qu'on appelle REST. Et je terminerai en donnant quelques exemples d'utilisation de la librairie Flask pour donner une idée et en parallèle de ce que j'avais montré avec la librairie Web.pi lors de la vidéo précédente. Comme on l'a vu, lorsqu'on fait de la programmation web, donc on s'appuie sur les sockets pour établir la connexion, pour envoyer des tableaux d'octets, en l'occurrence des chaînes de caractères. Le protocole HTTP me dit quelles sont les requêtes que je peux envoyer. Souvenez-vous, GET d'une URL, typiquement. Et puis, j'ai un certain nombre de langages qui définissent le contenu qui est renvoyé par le serveur au client et que le client va interpréter, va rendre dans le navigateur. Je vais prendre dans les transparents suivants un exemple en écho aux vidéos sur les bases de données de gestion d'une liste de films. Imaginons que j'ai une vidéothèque avec seulement deux films. Une page HTML qui montrerait ces deux films, elle aurait la forme suivante. J'ai ici le titre dans l'entête. Et dans le corps du texte, j'ai une balise UL qui est simplement une liste de bullet points avec deux sous-balises ou tags LI qui correspondent à chacun des bullet points avec deux films, le parrain et Scarface. Si je regarde mes données en JSON, qui est un format de représentation des données très utilisé sur le web, vous voyez que ce que je vais avoir pour représenter ma vidéothèque, c'est une liste avec ces crochets et deux éléments qui à chaque fois sont des dictionnaires qui me disent que le titre du premier film c'est le parrain, le titre du deuxième film c'est Scarface et les autres clés sont les clés années pour ces mêmes films. En web classique, on va opérer de la manière suivante. Le client, c'est-à-dire le navigateur dans la plupart des cas, va envoyer une requête GET avec le nom d'un fichier HTML. Le serveur va consulter la base de données pour savoir ce qu'il y a effectivement dans ma vidéothèque, typiquement en envoyant une requête SQL à la base de données, va recevoir la réponse, donc la liste de films que je viens de voir sur le transparent précédent, et va utiliser un template, comme on a vu dans la vidéo précédente, pour, à partir des données reçues, produire le HTML que j'ai présenté il y a deux transparents. Et c'est ce contenu HTML qui sera envoyé du serveur au client, et le client, dans le navigateur, va interpréter ce HTML pour transformer ce que sont mes balises en ma liste de bullet points à l'écran. Voilà à quoi ça va ressembler en termes de HTML. C'est au fond semblable à ce que j'ai montré en termes de template à l'aide de Web.pi. Ici, simplement, le moteur de template que j'utilise, c'est Jinja 2, qui est le moteur de template utilisé par la librairie Flask. Vous voyez qu'il n'y a rien de très compliqué. Essentiellement, j'ai du HTML classique et simplement dans mon template j'ai une boucle for sur une variable liste film qui en toute hypothèse est le résultat de la requête SQL envoyée à la base de données et pour chaque élément de ma liste je crée une balise LI avec le titre du film et son année de publication. Et tout ça, ça se passe côté serveur. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'une seule requête va être envoyée par le client vers le serveur, que l'ensemble du calcul de la page, c'est-à-dire du texte HTML, se fait du côté du serveur, et que l'ensemble du rendu se fait du côté du client. En termes d'architecture, ça veut dire que vous allez avoir quelque chose comme ça, une architecture client-serveur 2 ou 3 tiers, 2 ou 3 tiers selon qu'on a ou pas une base de données. D'accord ? Quand vous avez des sites simples, vous n'avez pas nécessairement une base de données, auquel cas vous avez une architecture client-serveur de tiers. Si maintenant je me déplace vers ce que j'ai appelé le web moderne, l'interaction va commencer de la même manière. Le client va envoyer une requête GET d'une page web. Mais cette fois-ci, le serveur va immédiatement lui renvoyer un contenu HTML. Simplement, ce contenu HTML est différent du contenu que j'ai présenté précédemment. Et ce qui va se passer, c'est que le client, le navigateur, en analysant le HTML, va se rendre compte qu'il a besoin de télécharger d'autres éléments, en particulier un fichier JavaScript. Il va donc demander ce fichier JavaScript au serveur, et une fois qu'il l'a reçu, il va exécuter ce JavaScript à l'intérieur du navigateur. Et ce qui va se passer, c'est que l'exécution de ce JavaScript va engendrer une requête pour obtenir la liste des films au format JSON. Donc pas la page complète, juste les films. Cette troisième requête au serveur va cette fois-ci déboucher sur une requête à la base de données, et la réponse obtenue de la base de données va être transformée en JSON pour être envoyée au client. Et le client, avec tous ses éléments en main, c'est-à-dire le HTML, le JavaScript et les données JSON obtenues à la dernière étape, va combiner tout ça pour enfin construire le HTML complet à afficher à l'écran de l'utilisateur. Pour faire ça, on va avoir de nouveau recours à des templates. D'une certaine manière, ça vous montre l'importance de cette notion de moteur de template. Mais l'élément crucial ici, c'est que le template, au lieu de s'exécuter du côté serveur, va s'exécuter du côté client. La structure est essentiellement la même. J'ai toujours du HTML statique, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, quelles que soient les données que je reçois. Et j'ai une partie ici pour itérer sur les différents éléments de ma liste. La syntaxe est légèrement différente de l'autre moteur de template, mais au fond, ce n'est pas ça qui importe. Ici, la syntaxe que j'ai retenue, c'est celle d'Angular. Le point crucial, c'est de voir, encore une fois, que cette fois-ci, ça s'exécute du côté client. Et il faut imaginer que ma variable liste film ici, c'est ce que j'ai reçu lors de la troisième interaction, dans mon chronogramme, ma troisième requête, c'est le contenu JSON. D'accord ? Et c'est le client qui va combiner le HTML statique, les éléments reçus en JSON pour produire la page finale. Donc ce qu'on voit dans ce mode de fonctionnement de web moderne, c'est qu'il faut plusieurs requêtes pour obtenir la page dans son ensemble, d'une certaine manière. J'ai d'abord demandé le HTML, qui va être la structure globale. J'ai ensuite demandé le code JavaScript à exécuter. Et finalement, j'ai reçu les données et j'ai injecté ces données dans le HTML que j'avais reçu pour construire ma page définitive. Au passage, ce qu'on peut noter, ce sera important dans les transparents suivants, c'est que mon contenu HTML et mon code JavaScript ne dépendent pas du contenu exact de ma page. Quels que soient les films qui se trouvent dans ma base de données, le contenu HTML et le contenu JavaScript sont constants. La seule chose qui va changer au fil du temps, ça va être le contenu JSON. Et enfin, comme je l'ai dit sur le transparent précédent, la grande idée de ce modèle, c'est que le calcul et le rendu de la page se font du côté client, alors que dans le modèle classique, la page était entièrement construite du côté serveur et simplement rendue du côté client. L'impact en termes d'architecture est le suivant. Vous voyez toujours une architecture qui est globalement client-serveur. Donc j'ai mon client qui s'adresse au serveur pour lui envoyer un certain nombre de requêtes. Et pour répondre à certaines requêtes, mon serveur sera amené à interroger la base de données. Mais sur le transparent précédent, j'ai noté que certains fichiers, en l'occurrence mon fichier HTML et mon fichier JavaScript, étaient statiques. Et donc ça ouvre la possibilité d'avoir en fait deux serveurs. Un serveur dit assets qui contient uniquement les éléments statiques et un serveur dit serveur d'API qui va me servir uniquement pour obtenir le JSON. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de procéder de la sorte ? Bien, tout simplement parce que vous voyez que là où il y a du travail à faire, entre guillemets, c'est du côté de l'API, parce qu'il faut parler à la base de données et peut-être faire des transformations, faire des choses un peu malines, alors que du côté du serveur asset, je me contente d'envoyer des fichiers qui sont constants, dont le contenu n'évolue pas en fil du temps. Donc vous voyez que j'ai une première manière un peu maline d'équilibrer la charge en ayant un serveur qui s'occupe des fichiers bêtes, des fichiers statiques, et un serveur dédié aux interactions avec la base de données. La notion d'API REST, on va le voir, elle va affiner un peu ce que je viens de présenter du web moderne. La façon REST de programmer des sites web, c'est en gros l'état de l'art actuellement. Et l'idée, on l'a déjà vu largement au travers des exemples, c'est qu'une API REST va s'appuyer sur une architecture client-serveur, sur une architecture en couche. J'en ai pas parlé explicitement jusque-là, mais voilà, il faut imaginer, en référence à ce qu'on a vu dans la séance sur l'architecture, que mon serveur API est structuré en couche. Donc ça va vouloir dire une couche pour l'accès à la base de données qui récupère les données de manière brute, et puis des couches au-dessus qui font des choses plus ou moins intelligentes, plus ou moins fines sur ces données. Et puis, trois éléments nouveaux des API REST que je vais détailler dans les transparents suivants. Ça va être la notion de proposer une interface uniforme pour le retrait des données, de minimiser l'état du côté du serveur. D'accord ? L'état du côté du serveur, c'est ce dont le serveur doit se souvenir pour interagir correctement avec un client donné. Et enfin, la notion de cache qui nous permettra des interactions plus efficaces. Ce qu'on a derrière l'idée d'interface uniforme, c'est l'idée que vous allez, c'est simplement une idée de nommage au fond, vous allez définir vos URL de manière que, simplement en regardant les URL, vous ayez une bonne idée de ce qu'elles sont censées faire. Donc, dans l'exemple de ma vidéothèque, j'ai parlé de films qui me renvoyaient le JSON avec la liste de tous les films de ma vidéothèque. Si maintenant je veux accéder aux détails d'un film donné, je vais avoir une URL, vous voyez, qui va être film au singulier, un slash et l'identifiant du film. Et je vais avoir quelque chose de semblable pour mes réalisateurs. Un premier point d'appel qui me permettra de récupérer une liste, et un deuxième point que typiquement je mets au singulier et auquel je fournis l'identifiant pour récupérer les données sur un réalisateur donné. Sur ces différentes URL, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit du protocole HTTP, j'ai beaucoup parlé de GET pour obtenir le contenu d'une page, mais j'ai aussi brièvement évoqué le fait qu'il y avait d'autres types de requêtes en HTTP, put, post notamment. Ce qui est intéressant de noter, et REST vous encourage à faire cela, c'est le lien, le parallèle entre ces requêtes HTTP et ce que l'on a pu voir en SQL. Un acronyme que vous trouvez assez souvent pour parler de ce mapping entre ces deux domaines, c'est CRUD, pour Create, Retrieve, Update et Delete, que vous voyez ici. Et l'idée, ça va être que au mot clé insert en SQL, vous allez faire correspondre, par exemple, des requêtes HTTP, put ou post. Au mot-clé select, vous allez faire correspondre get ou post. Et aux autres mots-clés de SQL, enfin je dis mots-clés, mais enfin, il faut penser plus généralement en termes de type de requête que vous envoyez, vous allez faire correspondre d'autres types de requêtes HTTP. Une manière de penser ce tableau et les URL au-dessus, c'est si je m'intéresse à cette URL ici, film suivi d'un identifiant, qui parle donc d'un film en particulier, ben je peux décider lorsque je mets au point mon API que lorsque je vais envoyer une requête HTTP GET sur cet identifiant, c'est pour récupérer les données du film. Mais lorsque je vais envoyer une requête DELETE sur cette même URL, ce sera pour effacer le film. Et de la même manière, j'aurai la possibilité, par exemple, en envoyant une requête POST, de créer un nouveau film, ou en envoyant une requête PUT, de mettre à jour le contenu d'un film. Donc vous voyez que ce que vous pouvez faire, c'est distribuer intelligemment vos différentes requêtes HTTP de telle sorte que sur un point d'entrée, sur une URL donnée, vous fassiez correspondre les différentes opérations intéressantes d'une base de données. Un aparté sur le choix des identifiants. Donc, je vous parlais de cette URL film slash identifiant de mon film. Dans une base de données, vous pouvez demander, si vous n'avez pas d'identifiant naturel, vous pouvez demander de distribuer séquentiellement des numéros, donc ce qui vous amènerait à film slash 1, film slash 2, etc., etc. C'est en général considéré comme une mauvaise pratique dans le développement web, tout simplement parce que si quelqu'un qui essaye d'aspirer votre base de données repère cet encodage, vous voyez qu'il lui suffira d'envoyer des requêtes sur 1, 2, 3, 4 séquentiellement pour aspirer tout le contenu de votre base de données, tout le contenu de votre site web. D'où l'idée de distribuer des identifiants de manière aléatoire. Ici, vous avez ce qu'on appelle des UUID. Vous voyez que ce sont des identifiants très très longs et que par rapport à mon exemple séquentiel, vous avez ici une représentation creuse. Vous voyez bien que l'attaquant ne pourra pas énumérer toutes les formes possibles du UUID pour aspirer l'ensemble de vos données. Donc, d'une manière générale, on considère que c'est une mauvaise pratique de distribuer des identifiants séquentiellement et on utilise des techniques type UUID pour distribuer aléatoirement ces identifiants. Regardons maintenant l'impact d'une autre idée de REST sur l'architecture de votre application. J'ai dit qu'une autre idée de REST, c'était de minimiser l'état du client stocké du côté du serveur. Encore une fois, il est légitime que le serveur conserve un certain nombre d'informations sur les clients qui se sont connectés à lui pour interagir correctement. Le cas le plus simple, c'est si vous avez un site web sur lequel il faut entrer login et mot de passe avant d'accéder au contenu, le serveur, d'une certaine manière, doit se souvenir si vous êtes déjà connecté ou pas. La grande idée de minimiser l'état client, encore une fois stocké du côté du serveur, est la suivante. Si vous avez en mémoire vive de votre serveur, en toute hypothèse, donc les variables de votre programme Python, beaucoup d'informations sur les clients, ça veut dire que toutes les requêtes du client doivent aller sur ce serveur, d'accord ? Puisque c'est lui qui maintient une partie de l'état du client. Si maintenant vous déplacez toutes les informations que vous avez sur l'état du client dans votre base de données, vous voyez que vous pouvez avoir autant de serveurs que vous souhaitez en parallèle et qu'un même client va pouvoir parler au fil du temps à différents serveurs, chaque serveur allant chercher dans la base de données les informations sur le client qui lui parle. Et l'impact intéressant en termes d'architecture, c'est que ici, donc, vous pouvez avoir autant de machines que vous le souhaitez. Vous avez simplement une première machine ici qu'on appelle en général un frontal. Le client va toujours s'adresser à ce frontal, mais ce frontal va répartir la charge entre les différentes machines, de telle sorte que bien, si vous avez de nombreux clients, vous aurez plusieurs machines, et une requête qui arrivera du client n'atterrirait pas toujours sur le même serveur, mais sur un serveur qui n'est pas trop chargé, d'accord, qui a du temps libre et qui est capable de répondre rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle un passage à l'échelle horizontale, parce que ici, au milieu, j'ai multiplié les machines, encore une fois, pour dispatcher dynamiquement le travail, ce qui me permet de traiter beaucoup plus de clients que si j'avais une seule machine. Un mot maintenant sur la notion de cache. Donc, la notion de cache est une notion très générale en informatique. Ça consiste, pour dire simplement, à se souvenir du résultat d'un calcul pour éviter d'avoir refaire ce calcul. Dans le cadre du web, et en particulier des API REST, ça va prendre la forme suivante. L'idée, ça va être que si vous savez qu'une requête est idempotente, c'est-à-dire si vous, lorsque vous recevez les mêmes valeurs de paramètres, vous renvoyez toujours la même valeur, eh bien, conformément à ce que je viens de dire sur le principe général des caches, vous allez conserver le résultat d'une telle requête, et ensuite, quand vous allez recevoir une requête avec les mêmes paramètres, plutôt que de recalculer, vous allez renvoyer le résultat que vous connaissez déjà. Donc sur le principe, c'est très intéressant, ça évite de refaire des calculs potentiellement coûteux ici. Ça n'est possible, évidemment, que si vous n'avez pas d'état. Donc, encore une fois, si votre requête est idempotente, qu'elle ne s'intéresse pas à l'état, ou plus exactement, si le résultat ne dépend que des valeurs des paramètres. Et une des idées de REST, c'est que ça va s'appuyer, ce système de cache va s'appuyer sur les propriétés des requêtes HTTP. Et par exemple, si vous écrivez une API REST, vous devez vous assurer que vos requêtes GET sont idempotentes. Vous devez le faire parce que les systèmes de cache qui sont à l'œuvre, en particulier dans le navigateur, vont reposer sur cette propriété. C'est-à-dire vont intercepter d'une certaine manière les requêtes, et s'ils voient que les mêmes paramètres sont passés pour une requête GET, puisqu'elle est censée être idempotente, ne vont pas effectuer le recalcul. Et donc, typiquement, ne vont pas nécessairement renvoyer une requête au serveur, puisqu'ils savent déjà quelle réponse ils obtiendront. Pour terminer cette vidéo, quelques mots de la librairie Flask, juste pour montrer sur deux exemples très simples comment l'utiliser. C'est un peu en parallèle de l'utilisation de Web.pi sur la vidéo précédente. C'est une librairie pour la programmation web qui vous permet de faire à la fois du web classique et du web moderne. Et une de ses particularités, notamment par rapport à Web.pi d'un côté, c'est-à-dire du côté des librairies très simples, et à Django d'un autre côté du librairie très compliqué, c'est que Flask repose sur des plugins. C'est-à-dire que c'est une librairie qui est relativement simple à utiliser, avec relativement peu de fonctionnalités, mais dont vous pouvez augmenter les fonctionnalités par un système de plugins, un système d'ajout. Voilà à quoi va ressembler un exemple simple en Flask. Ici, je définis une fonction Python que j'ai appelée echo, qui va me servir simplement à renvoyer une chaîne de caractères que j'ai reçue en la transformant en majuscule. Cette transformation, elle se situe ici, avec du code Python simple, de passage en majuscule. Ce que vous voyez tout autour, qui est éventuellement un petit peu verbeux, mais qui est nécessaire au fonctionnement de Flask, c'est que vous allez accéder aux paramètres envoyés par le client en utilisant son nom sur cet objet particulier flask.request.json, qui vous donne accès aux valeurs JSON envoyées par le client. Et là, simplement, j'ai décidé que la chaîne de caractères qui m'intéresse dans ces données, elle s'appelle query. Ça vous donne accès aux données reçues. Et lorsque vous renvoyez vos données au format JSON, vous utilisez JSONify sur ce qui se trouve être ici, un objet Python. Ici, c'est un dictionnaire qui a la clé answer, associe ma variable de même nom. Et la dernière chose que j'ai à faire pour programmer cette API simple côté Flask, c'est de dire cette fonction à quelle URL elle est associée. Et ça, ça se fait grâce à la notation root ici, où je donne l'URL et je précise quelle méthode au sens HTTP ce code doit répondre. À partir de là, vous retrouvez un système semblable à ce qu'on a vu sur web.pi. Flask va lancer un serveur web et lorsqu'il recevra une requête get pour l'URL echo, exécutera ce code-là et se chargera de renvoyer le JSON construit ici au client. Pour terminer, un exemple un peu plus avancé qui nécessite l'utilisation d'un plugin qui s'appelle REST+. Ce qu'on a de commun par rapport au transparent précédent, c'est qu'on va toujours spécifier l'URL dont il est question. On va cette fois-ci définir une classe et dans cette classe, on peut définir autant de méthodes Python qu'il y a de requêtes HTTP auxquelles on souhaite répondre. Donc ici, j'ai implémenté quelque chose d'un peu différent. J'ai décidé que lorsque sur l'URL echo, je reçois une requête POST, je vais toujours m'intéresser à ma variable query, toujours envoyer un dictionnaire avec answer, mais je vais dupliquer la chaîne de caractères que j'ai reçue. Mais ça, c'est la logique Python relativement peu intéressante. Ce qui est intéressant sur ce transparent, c'est de voir à quel point ici, justement, la logique de mon application s'est simplifiée. Vous voyez que lorsque j'accède à ce qui ici s'appelle payload, c'est-à-dire aux données reçues depuis le client, j'y accède comme à un dictionnaire Python simplement. Et ce que je renvoie, c'est également un simple dictionnaire Python sans me poser de questions de format. Je peux faire ça parce que j'ai raconté ici beaucoup de choses à l'aide de décorateurs Python. Et en particulier, avec expect et Marshall with, j'ai donné le format de ce que j'attends ici en entrée et là en sortie. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais vous voyez que ce que je décris ici dans expect, c'est que je vais attendre un dictionnaire qui aura une clé query dont la valeur sera une chaîne de caractères. Et symétriquement, ce que je répondrai, c'est un dictionnaire qui contient une clé answer qui est également une chaîne de caractères. Et le fait d'avoir donné toutes ces informations de format ici, ça fait que la librairie va se charger de n'appeler ma méthode post ici qu'après avoir fait le décodage des valeurs reçues. Et ensuite, lorsque je vais renvoyer une valeur Python, se chargera de transformer cette valeur Python en JSON avant de la renvoyer au client. Donc vous voyez que ça semble très verbeux ici, mais vous avez quelque chose de très déclaratif qui vous sert d'une certaine manière à qualifier les entrées et les sorties d'un point de votre API. Et ensuite, ça vous permet, lorsque vous écrivez votre méthode en Python, de vous concentrer sur la logique applicative sans vous intéresser explicitement aux différentes questions de format.